Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour sur le 101.5 de Radio G, sur la rubrique À l'assaut. Et cette rubrique aujourd'hui a décidé effectivement une particularité. Nous avons observé depuis quelque temps que l'être humain est de plus en plus aveugle sur ses voisins, sur la vie des autres, le bien-être des autres. Et aujourd'hui, Radio G a décidé d'ouvrir justement ses yeux sur une particularité, effectivement, des personnes dites malvoyantes. Et à ce titre, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une association, et non des moindres, l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Mesdames, mesdemoiselles, bonjour, sur les ondes de 101.5 de Radio G.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Oriane, commençons par vous. Dites-nous tout.
Donc, je m'appelle Oriane Blanchard, je suis chargée de communication et événementielle à l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Et on recherche des bénévoles.
Alors ça, l'appel est lancé, mais nous aurons l'occasion d'en débattre dans les minutes à venir. Et Lucie.
Et donc moi, c'est Lucie. J'ai rejoint l'association au mois de septembre dans le cadre de mon alternance en tant qu'assistante communication et marketing digital.
Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames, bienvenue donc sur nos ondes. En tous les cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir parce que vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Déjà, l'association des chiens guides aveugles de l'Ouest est structurée comment et rattachée par quel biais par rapport effectivement à la Fédération nationale?
Alors, notre association, elle a été créée en 1975, pardon. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. Et on est une association. Donc, comme toute association, on a un président, un bureau, un conseil d'administration qui se réunit régulièrement pour décider de l'orientation stratégique à donner à l'association. Et on est environ 60 salariés à travailler pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap pour lesquelles le chien peut être une aide au niveau de l'autonomie.
Alors, quand vous dites 60 salariés, c'est au niveau national, au niveau région, département?
Au niveau de notre association, au niveau régional. Il faut savoir qu'on a une école de chiens guides à Bouchemaine, à côté d'Angers, mais on a également un autre site à Pont-Scorff, à côté de Lorient, en Bretagne, et un bureau à Nantes, ce qui nous permet de couvrir les 13 départements de l'ouest de la France qui constituent notre territoire. Il faut savoir que la France est divisée au niveau des territoires parmi 10 écoles de chiens guides environ qui sont fédérées. Toutes les écoles de chiens guides adhèrent à une fédération. Ça nous permet de couvrir toute la France et de pouvoir répondre à toutes les demandes d'accompagnement.
Alors, chacun voit plus ou moins, en traversant Angers, des chiens guides d'aveugles. Très peu connaissent le concept, la raison d'être, toutes les modalités effectivement qui aboutissent à cet état de fait. Alors moi, je souhaiterais tout savoir concernant le principe même de la naissance du chien, sa sélection, pour qui, pourquoi, à quel public s'adresse-t-il?
Alors, la vie d'un chien guide d'aveugle. Donc le futur chien guide d'aveugle naît au sein d'un centre d'élevage. Il se trouve qu'on en a un dans notre école à Bouchemaine, qui s'appelle la Maison du Chiot. Il y a 3 centres d'élevage en France qui vont fournir toutes les écoles de chiens guides. Donc le chiot naît à la Maison du Chiot. Il y reste de sa naissance jusqu'à ses 2 mois avec sa maman et ses frères et sœurs. Il reste jusqu'à 2 mois parce qu'il peut pas sortir tant qu'il a pas eu tous ses vaccins et qu'il n'est pas sevré. Une fois que c'est fait à 2 mois, là il va pouvoir rejoindre une famille d'accueil bénévole pour passer sa première année, donc de ses 2 mois à ses 1 an. L'objectif pendant cette période-là, c'est qu'il grandisse bien, calmement, qu'il soit un bon chien de compagnie, qu'il fasse pas de bêtises. Cette période-là, nos éducateurs canins accompagnent les familles bénévoles pour que tout se passe bien. Une fois cette première année faite, le chien, si tout va bien, il va pouvoir rentrer à l'école des chiens guides et commencer son apprentissage pour pouvoir guider les personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un harnais. Donc là, ça dure environ 1 an. Donc de ses 1 an à ses 2 ans. Donc le chien, il est en internat dans notre école. La famille le dépose le lundi matin et le récupère le vendredi midi. Le soir, il dort au chenil avec ses copains chiens et la journée, il est avec son éducateur. Et la famille ne l'a que le week-end. À l'issue de ses 2 ans, le chien passe l'équivalent du bac qu'on appelle le certificat d'aptitude au guidage. Et une fois qu'il l'a eu, il peut être remis à une personne déficiente visuelle pour le guider pendant toute sa carrière de chien guide.
Alors, au travers de cette activité très explicative que vous venez de fournir, aujourd'hui, une problématique, enfin moi une question que je me pose au travers de cette éducation, parce que j'ai cru lire quelques chiffres à un moment donné où on parlait de plus de 20 000 euros d'éducation, de coûts d'éducation par show, 20 ou 28 000, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer effectivement cette situation ?
Exactement. On est à estimer, donc c'est une estimation, hein, le coût d'un chien guide total à peu près 25 000 euros. Ce qui comprend à la fois le salaire des éducateurs, la nourriture, les frais vétérinaires, la sélection de la lignée au niveau génétique, l'accompagnement, voilà.
Alors justement, comment on sélectionne ce chiot à la base ?
Comment on sélectionne ce chiot ? Bah en fait, il y a tout un travail génétique qui est fait via le réseau d'élevage français, le REF, pour croiser des lignées qui sont des lignées qui sont performantes en tant que chien guide. C'est-à-dire que c'est des lignées dans lesquelles quasiment tous les chiens sont devenus chien guide. Il y a eu très peu de chiens réorientés ou réformés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu aller au bout de l'éducation et devenir chien guide. Pour plein de raisons. Ça peut être des raisons de santé, des raisons de comportement, ou des chiens qui sont pas faits pour faire ça. On force pas les chiens à guider. Si jamais on se rend compte que c'est pas leur truc, voilà.
Alors j'ai profité de la présence de Lucille, donc qui est en alternance dans votre structure. Lucille, pourquoi on choisit effectivement de porter une alternance dans un bien-être animal ?
Eh bien, pour moi, c'était, si on peut dire le mot, une évidence. Alors je suis dans le milieu associatif depuis plus de 10 ans auprès des animaux. Et effectivement, quand il a fallu du coup chercher une alternance, qui est une tâche très difficile, et que cette offre est arrivée, c'était oui, j'ai postulé sans. C'était fait pour moi. Enfin voilà, j'ai eu ce sentiment-là. Et surtout de travailler pour une cause d'utilité publique. C'était surtout ça qui résonnait pour moi, de pouvoir aider des personnes dans le besoin. Donc ici les déficients visuels. Et surtout de travailler aux côtés indirectement pour le coup des animaux, et puis surtout de pouvoir faire mon alternance donc dans le métier dans lequel je me suis réorientée, donc la communication et l'événementiel à côté et dans le monde des animaux.
Et je vous sens passionnée par rapport à ça, donc bravo Lucille, effectivement, de faire cette démarche. Aujourd'hui, à quel public s'adressent ces chiens guides d'aveugles ? Comment on choisit ? Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Comment sont sélectionnées les personnes qui sont
qui vont
aptes
à bénéficier
et à profiter, je dirais, constructivement de cet animal?
Donc, pour sélectionner ces personnes, il faut déjà qu'elles adressent leurs demandes à notre association via notre site internet. C'est des personnes aveugles ou malvoyantes. On a des maîtres de chiens guides, on appelle ça comme ça, qui voient quand même des détails, des choses, mais de façon très réduite en fonction de leur pathologie. Et le chien va vraiment assurer leur sécurité sur leur trajet. Donc après, pour choisir les personnes, ça dépend du dossier de candidature, ça dépend de la pathologie. Il faut aussi savoir que les maîtres de chiens guides doivent pouvoir se déplacer sans le chien. Pourquoi ? Parce que si le chien tombe malade, ou entre deux renouvellements de chiens, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont trois ou quatre chiens dans leur vie pour les aider à se déplacer toute leur vie, il faut quand même qu'ils puissent se déplacer en autonomie, au moyen d'une canne blanche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose également, un service de locomotion. Donc c'est apprendre à se déplacer en sécurité avec une canne blanche, et c'est indispensable avant d'avoir un chien guide. Et une petite chose en plus, tous les services qu'on propose sont gratuits. Que ce soit les cours de locomotion, le chien guide d'aveugle, les chiens d'assistance, de médiation, qui sont aussi des choses qu'on fait. On fait aussi des cours d'informatique adaptés. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est gratuit.
Alors, compte tenu du coût global de l'éducation, compte tenu effectivement du côté affectif de l'animal, qu'est-ce que ça requiert comme compétence pour être reconnu, pouvoir bénéficier de cette prestation que vous offrez? C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit la présence de cet animal, on s'assure de quoi au travers de cette personne pour être sûr que le bien-être animal est respecté.
Oui. Déjà, on les lâche pas dans la nature. On assure un suivi régulier du duo nouvellement formé. On appelle ça comme ça. Du coup, le maître de chien guide et le chien. On apprend aussi à la personne déficiente visuelle ou aveugle, avant qu'elle ait son chien, à s'en occuper. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'animaux, qui n'ont jamais eu de chien. Donc on leur apprend à bien leur donner à manger, la bonne ration, à heure fixe, à s'en occuper, à les brosser, à ce que les chiens aient des moments de détente. On appelle la détente, en fait, c'est un peu la récré du chien guide. Il faut qu'il ait un moment dans la journée où il est libre, dans un parc ou quelque part, pour qu'il sente des odeurs, pour qu'il soit en dehors du travail, qu'il ait ce moment de récréation. C'est pas évident pour les personnes déficientes visuelles parce qu'elles doivent lâcher leur chien, qui est leur moyen de se déplacer. Donc c'est pour ça qu'ils leur mettent généralement une petite clochette autour du cou. Et nos chiens guides ont un très bon rappel. Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça.
En quelques mots, quel est votre plus grand bonheur, quelle est votre plus grande satisfaction d'être là où vous êtes aujourd'hui, où vous êtes en harmonie par rapport à vos passions?
Waouh, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas du tout préparé.
C'est normal.
Je dirais, parce que du coup, moi, je m'occupe des réseaux sociaux. Et c'est surtout de voir l'engouement sur les réseaux sociaux à travers les différentes nouvelles qu'on partage, et notamment la remise. Ce moment-là où je vais aussi prendre les photos des familles, donc pendant le pot de remise, au moment où du coup les familles d'accueil, la personne déficiente visuelle se rejoignent et partagent un moment avec les éducateurs. Ce moment-là qui est un moment qui est fort pour moi. Et du coup, oui, effectivement, ensuite, quand on le poste sur les réseaux sociaux et que on voit tout l'engouement et les personnes qui nous suivent derrière, parce qu'on se rend pas compte tous les jours au quotidien de ce qu'on peut, ce que la mission peut apporter, ce que ce travail peut apporter.
Et alors voilà. Justement, au travers de ça, on va rentrer un petit peu dans le cœur même de la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que vous êtes en recherche de familles d'accueil bénévoles. Alors, personnellement, quels sont les critères, quelles sont les compétences requises et de combien de bénévoles avez-vous besoin? Quand je parle de bénévoles, ce sont implicitement de familles bénévoles ou monoparentales?
Alors, on appelle famille parce qu'on avait l'habitude d'appeler ça des familles, mais on a beaucoup de personnes seules qui sont familles d'accueil. Du coup, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais par exemple, on a des familles on a des bénévoles à Nantes. C'est des étudiants vétérinaires, par exemple, qui sont seuls et qui sont ce qu'on appelle familles d'accueil. Mmh. Du coup, notre besoin est très important parce qu'il nous faut, en gros, on remet un certain nombre de chiens chaque année. À chaque fois qu'il y a un nouveau chiot, il faut une nouvelle famille ou bien un renouvellement de famille. Quantifier exactement le nombre, faut savoir que normalement on est censé placer à peu près 5 chiots par mois. Voilà, sur notre différents territoires, donc ça veut dire un certain nombre de bénévoles. Et ensuite, par rapport aux critères, il faut habiter à maximum une heure de route d'un de nos centres d'éducation, donc que ce soit à Bushmen ou bien à Pont-Scorff à côté de Lorient ou bien à Nantes. Il faut aussi avoir une voiture, être véhiculé pour pouvoir venir au cours, et il faut avoir une demi-journée par semaine disponible pour venir à l'école pour suivre les cours. Ça, c'est cette demi-journée-là ne peut pas être le week-end, elle doit être en semaine avec les éducateurs. Et dernière chose, pas des moindres, il faut quand même pouvoir... il faut jamais laisser le chiot seul. Mmh. Il doit toujours rester avec vous, donc vous accompagner au travail. Et ça, du coup, il faut voir avec l'employeur pour qu'il soit OK.
Alors, voilà. Moi, je serais un très mauvais cas de figure, puisque le chiot passerait son temps sur mes genoux, j'avoue. Donc, il y a quand même un côté éducateur qui est quand même essentiel, c'est-à-dire savoir prendre des distances d'autorité, entre guillemets, même si j'aime un peu le terme, vis-à-vis du chiot. Comment équilibrer la bonne relation?
Alors, attention, ce n'est pas du tout la famille bénévole qui va éduquer le chien. La famille bénévole accompagne juste l'apprentissage du chien comme si c'était son propre chien de compagnie. Mmh. Elle va faire en sorte, voilà, qu'il fasse pas de bêtises. Mais l'éducation vraiment du chien, c'est grâce à nos éducateurs de chiens guides. Que ce soit la première année ou la deuxième année, ils suivent toutes nos familles. Si une famille rencontre un problème, a quelque chose, les éducateurs sont là pour l'aider, la rencontrer et l'accompagner à ce niveau-là.
Oui, donc il y a un recadrage.
Oui,
officiel.
Les familles ne sont pas du tout laissées comme ça. Oui. Officiel par nos éducateurs, voilà.
Alors aujourd'hui, de combien de familles avez-vous besoin?
Bah, je vous disais, on place à peu près 5 chiots par mois, fois 12. Il nous faudrait chaque année au moins une trentaine de nouvelles familles.
Bon, l'appel est lancé. Toutes les auditrices et auditeurs...
Dernière chose quand même, oui. Si je me permets. quand vous devenez bénévole au sein de l'association, vous rejoignez plein de bénévoles qui sont déjà là, une sorte de communauté de bénévoles où il y a des moments conviviaux, il y a des échanges, il y a des séances collectives de partage. Et c'est pas uniquement être famille d'accueil d'un chien, c'est aussi faire partie de l'association et nous rejoindre pour une très belle cause. Voilà.
Je n'en doute pas, vu votre regard, quand vous dites effectivement cet état de fait. Aujourd'hui, de combien de familles disposez-vous sur la région?
On a à peu près 70 familles d'accueil en prééducation. Du coup, c'est la première année entre Angers, Nantes et Pons-Corf. On a à peu près une trentaine de familles d'élevage. Mm-hmm. Donc, on a
effectivement quelle est la différence entre les familles d'élevage et les familles d'accueil.
Une famille d'élevage, c'est la même chose qu'une famille d'accueil. Elle va juste accueillir un chiot qui ne deviendra pas chien guide, mais qui deviendra papa ou maman d'un futur chien guide. Parce que comme on a un centre d'élevage, on a un cheptel, on appelle ça comme ça, de reproducteurs et reproductrices. Et donc, on a besoin aussi de familles pour que les chiots puissent grandir simplement. Cette mission-là de famille d'élevage est un peu différente de la famille chien guide. Parce que la famille d'élevage va garder le chiot, le chien, du coup, pendant toute sa vie. Et à l'issue de sa carrière de reproducteur, elle va pouvoir l'adopter. Mmh. Je parle d'adoption parce qu'en fait, les chiens guides ou d'élevage pendant toute leur carrière restent toujours la propriété de notre association. Ce qui nous permet d'assurer un suivi tous les ans pour s'assurer que le chien est en bonne santé et qu'il continue de guider de façon sécurisée. Voilà, c'est très important pour ça. Et une fois qu'il a fini, enfin qu'il est vieillissant, on va le mettre à la retraite, et c'est là où il pourra être mis à l'adoption.
Alors, voilà. Est-ce l'opportunité pour des personnes qui se sentent un peu seules dans cette vie, un peu d'égoïsme latent, je dirais, égoïsme humain, est-ce que ça peut être une opportunité pour ces personnes qui puissent effectivement bénéficier de ça, tout en apportant à la fois le bien-être et l'aide pour votre association,
tout à fait. Quoi. Tout à fait. C'est tout à fait possible, c'est une très bonne idée. Et puis, comme je vous disais, c'est un peu rejoindre aussi une communauté, faire une bonne action. Voilà, être accompagné et puis avoir un petit chien toujours avec soi.
Eh bien, l'appel est lancé sur les 40 000 auditeurs de Radio G sur tout le territoire. Et pour finir, Lucie, je vais vous laisser le dernier mot pour nous dire quelles sont les motivations que chacun doit avoir.
Les motivations, tout comme moi, c'était pour moi, c'était contribuer à une cause d'utilité publique. Et surtout, effectivement, rejoindre une association, pour le coup, bienveillante, vraiment. Voilà, c'est vraiment, moi, je m'y sens vraiment bien. Que ce soit les bénévoles, les salariés, les administrateurs, vraiment, il y a...
D'accord. Alors, juste pour finir, très rapidement, les réseaux, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste une minute.
Oui. Alors les réseaux, oui. Alors effectivement, donc on communique sur Instagram et sur Facebook principalement, et puis pour un réseau plus professionnel, LinkedIn. Et puis on a du coup notre site internet également.
Donc chien guide d'aveugle de l'Oise.
Une dernière petite chose. Oui. N'hésitez pas à venir à notre journée porte ouverte qui a lieu le dimanche 27 septembre 2026 de 14h à 18h à Bushman et à Ponskorf.
Parfait, les auditeurs pourront réécouter le podcast, il n'y a pas de souci. C'est un réel plaisir de vous accueillir.
Merci.
En tous les cas, à toutes les auditrices et auditeurs, Jean et moi-même vous souhaitons un très bon vendredi, un bon week-end également et rendez-vous dans 15 jours.
Partage, culture, art, découverte, science, musique, territoire, entraide, bénévolat, cohésion, santé, sport, rencontre.